Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre programme en français. Nous sommes le samedi 28 juin 2025. Il est 13h sur Radio SBS et vous écoutez votre programme en français. Nous allons passer une heure ensemble. Je m'appelle Marianne Murat et comme tous les samedis, on commence avec la rétrospective. La rétrospective du jour, messieurs, dames, et on remonte aujourd'hui au 28 juin 1914, il y a 111 ans, lorsque l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et son épouse Sophie sont assassinés à Sarajevo, en Serbie. Retour avec François Vantôme sur le jour qui a fait basculer l'Europe et le monde dans l'horreur de la Première Guerre mondiale.
Au début du XXe siècle, l'Europe est traversée par un nationalisme croissant, notamment dans les Balkans, où les Slaves du Sud cherchent à s'unifier et obtenir leur indépendance face aux empires austro-hongrois et ottomans qui dominent la région. L'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'empire austro-hongrois en 1908 a exacerbé ces tensions, suscitant l'indignation en Serbie et renforçant le désir d'un État unifié. Dans ce contexte, la Main Noire, un groupe secret nationaliste serbe, a vu le jour pour promouvoir l'unité des Slaves du Sud et s'opposer à l'Austro-Hongrie. La visite de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914, lors d'une date symbolique pour les Serbes, a intensifié les hostilités, créant un climat propice à l'attentat qui allait déclencher la Première Guerre mondiale. Le dimanche 28 juin 1914, François Ferdinand, 50 ans, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et son épouse, la comtesse Sophie Chotek, sont en visite à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, 6 ans après l'annexion de cette dernière par la monarchie austro-hongroise. La matinée est ensoleillée. À 10h45, le couple impérial quitte l'hôtel de ville dans sa limousine découverte pour assister à une réception à l'hôtel de ville, avant de visiter le musée local. Pour mettre en scène la proximité de la couronne avec le peuple bosniaque, l'itinéraire n'est pas protégé par l'armée et les autorités locales n'ont déployé que 150 policiers. Le jour de l'attentat, les 6 conspirateurs, dissimulés dans la foule, attendent le cortège. Cependant, lors de la première tentative d'attentat, la grenade lancée par Kabrinovic rebondit sur la capote de la voiture de l'archiduc et blesse un officier de la voiture qui suit. Son auteur est arrêté. Un peu plus tard, le couple impérial modifie son programme pour se rendre à l'hôpital pour visiter les victimes. Pour des raisons de sécurité, il est décidé d'effectuer un trajet différent pour éviter l'artère centrale, trop difficile à sécuriser. Malheureusement, le chauffeur ne reçoit pas l'information et reprend le chemin initial. À un croisement, se rendant compte de leur erreur, le chauffeur doit rebrousser chemin et faire marche arrière. L'automobile est alors immobilisé quelques secondes. Le nationaliste Princip, sur le bas-côté, saisit sa chance. Il tire 2 balles, l'une touche l'archiduc et l'autre atteint Sophie. Il succombe rapidement à leurs blessures. Après avoir échoué à se suicider avec du cyanure, Princip est arrêté avec ses complices. À Vienne, capitale de l'Autriche, la nouvelle de l'attentat sème la consternation. Théâtre et salles de concert interrompent leurs représentations. De nombreux drapeaux noirs sont tissés. À Sarajevo, tous les drapeaux sont mis en berne. Le 29 juin, de violentes manifestations anti-serbes éclatent à Sarajevo où plusieurs magasins serbes sont mis à sac. L'état de siège est proclamé. Le corps de l'archiduc et de la duchesse sont embaumés et leurs visages moulés. Leurs dépouilles sont exposées sur un lit de parade orné de plantes et de cierges. Vers 18h, les cercueils sont bénis, puis descendus pour être placés dans des fourgons afin d'être rapatriés en Autriche. Le matin du vendredi 3 juillet, les dépouilles sont exposées au palais impérial de Vienne. Des milliers de personnes défilent devant les cercueils. Ces deux coups de feu vont mettre le feu aux poudres de l'Europe. L'attentat sert de prétexte à l'Autriche-Hongrie pour entrer dans la guerre. Le 23 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie avec des exigences sévères. Bien que la Serbie accepte la plupart des conditions, elle rejette certaines d'entre elles. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Cet acte déclenche un effet domino en raison des alliances en place en Europe. La Russie, en tant qu'alliée de la Serbie, mobilise son armée pour soutenir son voisin. En réponse, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août 1914, puis à la France le 3 août. L'Allemagne envahit également la Belgique le 4, ce qui entraîne l'entrée en guerre du Royaume-Uni. Les alliés, comprenant le Royaume-Uni, la France, la Russie et plus tard les États-Unis et d'autres, s'opposent aux puissances centrales, principalement l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. L'Europe s'engage alors dans 4 années d'une guerre qui va devenir mondiale et faire 20 millions de morts et 21 millions de blessés.
Silence les grillons sur les branches immobiles, les arbres font des rayons.
C'était France Gall, bien sûr, sur les ondes de Radio SBS avec sa chanson Cézanne Pain. Messieurs, dames, on marque une courte pause. Restez sur SBS French, on se retrouve tout de suite.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
L'État du Victoria a confirmé son projet d'ouvrir son premier centre fixe de dépistage de pilules à Fitzroy, l'un des quartiers les plus populaires de Melbourne, pour sa vie nocturne. Le service proposera des tests pour la plupart des substances et se servira de point de détection précoce pour les autorités qui surveillent les opioïdes synthétiques extrêmement dangereux, tels que le fentanyl et les nitazènes, lesquels peuvent être mélangés à d'autres drogues. Cette décision place le Victoria dans une position unique en matière de politique sur les drogues, alors que les États et territoires australiens tentent de trouver un équilibre entre la réduction des risques et les politiques de plus en plus strictes en matière de sécurité publique. Un reportage signé Deborah Gork pour SBS News, produit par Marianne Murat. Ici, au Festival Ardmisson, on aime faire la fête, comme l'indique le panneau. Cet événement populaire à l'hippodrome de Werribee, dans le sud-ouest de Melbourne, faisait partie des sites choisis pour un essai de dépistage de pilules dans l'état du Victoria, après que 9 personnes ont été hospitalisées pour des overdoses présumées en 2024. La première ministre du Victoria, Jacinta Allan, avait déclaré à l'époque qu'elle savait très bien que certains festivaliers consommaient des drogues lors de ces événements et que le gouvernement souhaitait avant tout assurer leur sécurité.
We know that if a young person has a pill in their hand, they're at a music festival, they're intending to use it. Young people are also entitled to have access to health-focused supportive advice about what is in that pill, and get the health advice that can be then wrapped around that young person.
Le gouvernement de l'État affirme que les essais de dépistage ont été un franc succès, avec près de 1400 échantillons analysés. Les principales drogues détectées étaient la MDMA, la kétamine et la cocaïne, mais environ 11% des échantillons ne correspondaient pas à ce que les consommateurs pensaient avoir. À la suite de cet essai, le gouvernement travailliste de Jacinta Allan a désigné Fitzroy, dans la banlieue nord de Melbourne, comme site du premier centre fixe de dépistage de pilules. La directrice Sarah Hailey a déclaré à Channel 9 que le service, qui ouvrira en août, sera gratuit et confidentiel.
In this space, we'll actually have a private consultation room, the sample drop-off room. The lab is up at the end.
Le service proposera des tests sur la plupart des pilules, gélules, poudres, cristaux et liquides, et agira comme un système d'alerte précoce pour les autorités concernant les opioïdes synthétiques très dangereux. La ministre de la Santé mentale, Ingrid Stitt, a précisé qu'il s'agissait de sauver des vies et non d'adoucir la position du gouvernement sur les drogues.
None of this means that it's legal to have drugs on you. This is a known drug use part of our city, so all of those factors meant that this was a really good location.
Cette annonce signifie que le Victoria rejoint le territoire de la capitale australienne en étant l'un des deux seuls territoires d'Australie à disposer d'un site fixe de dépistage des pilules. Plus tôt cette année, le Queensland a décidé de ne pas renouveler les contrats de ses propres sites de dépistage permanents à Bowen Hills, Brisbane, et Burleigh Heads, Gold Coast, malgré la découverte pour la première fois dans les eaux usées australiennes d'opioïdes synthétiques extrêmement puissants, jusqu'à 40 fois plus forts que le fentanyl. La commission de la santé mentale du Queensland a plutôt été chargée de développer un système de surveillance des overdoses. Cette décision a poussé le président de l'Association médicale australienne du Queensland, le docteur Nick Yim, à déclarer que sans système d'alerte précoce comme le dépistage des pilules, il craignait que ces fermetures ne conduisent à un taux de dommages plus élevé au final.
It's disappointing that Crisafulli government, who was elected on a promise that they would listen to the experts, has once again dismissed the evidence supported by doctors. Without regulated testing, already vulnerable community members remain exposed to these hidden dangers.
Le ministre de la Santé, Tim Nicholls, a défendu la décision de mettre fin au contrat des cliniques, invoquant, lui, la position du Parti libéral national contre les drogues. Cette décision a été soutenue par d'autres membres du gouvernement, comme le ministre des Petites Entreprises, Steve Minikin.
We don't believe there is any safe way to actually undertake illegal drugs. We will not be going down the pill testing path.
Mais dans d'autres États, comme la Nouvelle-Galles du Sud, les centres de dépistage des pilules ne sont toujours pas écartés. Un essai de 12 mois est actuellement en cours lors des festivals de musique à travers l'État, un projet que le Premier ministre Chris Minns a indiqué vouloir laisser suivre son cours.
There's an essential contradiction to this change in policy. Drugs are illegal in the state, yet we've made a decision to allow for pill testing at major music festivals. The government's made a decision to live with the contradiction rather than risk someone dying as a result of having it in place.
Ce reportage est signé Deborah Grock pour SBS News, produit par Marianne Murat pour SBS French.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Ah si j'étais riche, si j'étais une célébrité, sûrement que la vie serait moins pénible et plus drôle. Si j'avais du talent, si je savais écrire et chanter, j'aurais plus.
Il me faut encore un peu.
Negmaron et sa chanson Un peu de temps, sortie en 2025. Nous avons rencontré les deux réalisateurs du film d'animation Hola Frida, film en sélection officielle au Festival international du film pour enfants en Australie qui se déroule jusqu'au 20 juillet. Ils s'appellent Karine Vézina et André Caddy. Nous les avons rencontrés pour qu'ils nous présentent leur dessin animé Hola Frida, un pur message de bienveillance, différence et authenticité.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
À l'occasion du Festival international du film pour enfants qui se déroule en Australie jusqu'au 20 juillet, je suis en ligne avec André Caddy et Karine Vézina. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes les réalisateurs du film Hola Frida, qui est en sélection officielle. Et Hola Frida, c'est un film sur l'enfance de Frida Kahlo. Pourquoi avoir choisi ce thème et pourquoi l'avoir abordé par l'angle de l'enfance ?
Oui, ben déjà parce qu'il y a très peu de choses sur son enfance, donc c'était intéressant d'exploiter cette portion-là de sa vie qu'on connaissait très peu, que les gens connaissent très peu.
Ouais, puis en lisant ses lettres, on s'est rendu compte assez vite quand même qu'il y a beaucoup de choses qui venaient de cette période où il a eu la polio à 6 ans. Puis elle-même, dans ses lettres, dans son journal, on parle beaucoup de cette période, alors que dans les différentes biographies, même dans les documentaires qu'on a regardés, ils en parlent très, très peu, alors que beaucoup de choses ont commencé là. Le lien, les liens avec sa mère, les liens avec ses racines, même la base politique est vraiment a commencé pendant qu'il y avait vraiment les affrontements avec les Zapatistes, puis à Mexico. Donc c'est vraiment une période qui est intéressante et qui est rarement exploitée, oui, pour Frida.
Vous l'avez un petit peu abordé, mais si on parle de Frida Kahlo plus en profondeur, donc c'était une petite fille qui a été à 6 ans atteinte de poliomyélite, c'est sa jambe droite qui était atrophiée. Elle a du coup eu un surnom terrible hein, de la part de ses camarades de classe, Frida la Korra, c'est Frida la boiteuse. Est-ce que ce dessin animé pour vous, c'est une ode à la différence?
C'est surtout un ode à l'authenticité d'assumer qui on est en totalité, peu importe ce qui se passe, peu importe si ça plaît aux autres ou non, mais je pense qu'être capable d'assumer ce qu'on est dans nos défauts comme dans nos qualités, c'est plus le message central du film, je pense.
Toutes ces interactions avec l'ami imaginaire amenaient un petit peu ça. Chaque passage amène ça qui, pour un enfant, peut-être, va pas faire une énorme différence. Mais pour nous, c'est ça. La première fois qu'elle y passe, elle apprend, là, elle découvre un peu son monde imaginaire. Mais après, quand elle est intimidée, c'est des passages assez courts dans ce monde-là, mais où son ami lui fait, parce que c'est vraiment des phrases qu'on a lues dans les lettres. Quand elle disait, ah, il y a un moment, il y a un jour où là, ils ont été trop loin, ils m'ont insulté, j'ai pleuré. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais je m'intéresserai à ce qu'on pense de moi, puis que j'allais juste m'intéresser aux gens que j'aime, moi personnellement, puis les autres, je m'en fous complètement. Donc c'est vraiment dans cette période qu'elle a décidé beaucoup ça, puis c'est effectivement, elle s'est fait insulter, intimider, puis je pense que ça a forgé son caractère, puis sa mère l'a beaucoup aidée aussi là-dedans, sa mère qui était assez forte, assez rude, puis ça a commencé, je pense, cette période-là.
Vous avez assez bien réussi à, dans ce film, initier à la résilience, vous le disiez, l'imagination, la créativité, la positivité, l'art. Est-ce que vous pensez que, puisque c'est un dessin animé, tous ces messages sont accessibles pour un très jeune public?
Oui, absolument. Je pense que les jeunes, on sous-estime souvent ce que les jeunes comprennent de la réalité qui les entoure. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui les touchent beaucoup plus qu'on pense. Puis, donc, c'était pas vraiment un enjeu. Je pense que en plus, dans un dessin animé, il y a beaucoup plus de choses qui passent que dans un film en real. Fait que c'est comme ça marchait bien.
Oui, puis en général, on essaie de faire des films à hauteur d'enfants, mais pas spécialement pour enfants. Nous, l'idéal, c'est que le parent ou un adulte ou un grand
C'est
frère,
ce
une
que
grande
je
sœur
voulais
soit
vous
là.
demander. Est-ce qu'il y a un
Oui.
autre niveau de lecture pour les adultes?
Oui, bah déjà dans Dounia, c'est un peu ce qu'on avait fait. C'est un film qui était dur pour les enfants de 5-6 ans, mais qui, quand ils étaient avec leurs parents, qui étaient là pour leur expliquer c'était quoi la guerre, qu'est-ce qui se passait, tout ça. Puis c'est drôle parce que dans Dounia, on les voyait réagir toujours au même moment. Comme quand le petit canari mourait, tout ça. Puis là, c'est pareil. Là. Selon les âges, à 4-5 ans, là, c'est quand pendant l'ellipse, à un moment, ils se rendent compte que ça y est, Chiquita est morte de vieillesse. À chaque fois, les enfants se tournent vers les parents. Là. Elle est morte. Puis quand je suis dans la salle, des fois, les enfants se tournent vers moi, mais offusqués quand on a tué
Comment
Chiquita.
avez-vous osé?
Mais c'est drôle parce que on l'a présenté vraiment partout. On l'a présenté en premier au Mexique, dans la Casa Azul directement. Donc, en premier aux Mexicains. On la présente aussi à Meknès, au Maroc. On la présente vraiment des gens très, très différents. Puis c'est toujours la même chose. C'est beaucoup, beaucoup les mamans qui vont avec leur petite fille ou leur fils voir le film. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment souvent des questions dans les deux sens. L'enfant pose beaucoup de questions aux parents. Mais moi, j'ai beaucoup vu à Meknès, notamment là au Maroc, des parents qui demandaient à l'enfant parce qu'au bout d'un temps, ils avaient perdu le fil sur le monde imaginaire. Puis l'enfant, en général, là, ils comprennent tout, puis ils répondent, oh, non, non, c'est ça qui se passe. Puis c'est drôle à voir parce que ça arrive quasiment tout le temps, là.
C'est assez magique, du coup, c'est bien au-delà qu'un simple dessin animé, bien sûr. Il y a même un partenariat pour lutter contre la discrimination, c'est avec Handicap International. Est-ce que c'était votre but dès le début que ce soit au-delà qu'un simple film d'animation de 82 minutes?
Ben en fait, c'est que c'est obligé qu'on en parle. C'est pas qu'on a décidé de parler de handicap, mais comme ça fait tellement partie de sa vie, elle a tellement eu de problèmes de santé, de douleurs au dos, elle a porté des corsets, trucs. Tu sais, tout ça, Ça fait tellement partie d'elle, on peut pas dissocier de son histoire cette partie-là de sa vie. Donc, ça allait de soi qu'on allait en parler, mais c'était pas l'objectif premier d'en parler, mais on peut pas le passer à côté.
Ben, surtout qu'il y a des gens qui disent, en plus, oh, j'adore pas les peintures de Frida, mais c'est vraiment le personnage que j'aime. L'idée, c'était ça, un peu, c'est de faire un film, même pour les gens qui aiment pas spécialement la peinture, ou quoi, puis qui vont juste avoir envie de la découvrir plus tard.
Oui, d'ailleurs, le film, vous l'avez vraiment concentré sur la personnalité de Frida Kahlo et moins sur l'artiste ou même son couple une fois adulte.
Oui, surtout pas sur son couple. Je pense que ça, c'est la partie qu'on aimait le moins de son histoire qui était moins, en tout cas. Mais oui, non, pour tout le reste, je pense que c'est parce que Frida, ça devient un modèle. C'est une personnalité qui est très moderne malgré tout. C'est une personnalité qui rejoint beaucoup de gens par toutes les difficultés qu'elle a passées. Puis ça devient un modèle d'authenticité, puis de persévérance, de résilience, de tout ça. Donc, c'est vraiment universel comme sujet.
Puis la famille nous a dit, quand on leur a présenté justement à Coyoacan, ils ont dit, oh, vous n'avez pas fait un film juste sur Frida, vous avez fait un film sur notre famille, sur tout le monde, puis sur ce Mexique de ces années-là qui était passionnant, avec des courants politiques, des mouvements sociaux, des bouleversements technologiques et un retour aussi aux racines culturelles. Donc c'est vraiment une période qui était folle. Puis on y a été là, 2 fois à Mexico. Puis c'est vrai que c'est une ville incroyable. Quand on en est revenu la première fois, on s'est dit, oh, la barre est haute là, parce que en plus de Frida, il y a tout ça qu'il va falloir mettre dans le film.
Justement, vous avez eu l'aval de la nièce de Frida Kahlo, mais aussi de la directrice du musée Frida Kahlo. Toutes les deux ont validé le film, l'ont aimé. Est-ce que c'est une consécration quand on est réalisateur?
Oui.
C'est l'une des rares fois où on était stressé. Moi, on le présente devant des grosses salles, des fois. Puis en général, on aime défendre notre film, on en parle, mais le présenter dans la Casa Azul, juste devant la famille, là, c'est. Et à Morelia aussi, qui est un gros festival, oui, c'était une pression parce que ils auraient très bien pu nous dire, mais de quel droit vous l'avez fait, ou on pense pas que vous l'avez fait avec toute l'authenticité qu'on aurait aimé. Donc, oui, non, non, c'était un stress. Puis c'est une fierté que justement, que Perla du musée nous dise, mais faites-le. Justement, on y a été 1 an avant de faire le film, juste avant de finir l'écriture, pour voir avec eux si c'était correct. On a dit, si c'est pas correct, si vous estimez que ça se fait pas, ou si vous savez qu'il y a un projet qui est en cours, on va laisser faire, on a beaucoup d'histoires à raconter, donc on pourra passer à une autre histoire. Puis là, ils nous ont dit, non, personne n'en parle. C'est peut-être parce qu'elle est trop grande, mais personne n'en parle, personne parle de son enfance. Donc ils nous ont dit, faites-le vraiment en version mexicaine, double au Mexique, puis on va le passer dans les écoles, puis on va pouvoir se réapproprier ce trésor qu'est Frida Kahlo.
C'est très intéressant d'ailleurs qu'il soit diffusé dans les écoles parce que on a parlé de la maladie, de la différence, mais vous abordez aussi le thème du harcèlement scolaire, qui est un thème assez difficile.
Et tout à fait d'actualité. Je pense qu'à travers les époques, ça a toujours existé. Donc, faut en parler, trouver des solutions, des façons de l'aborder, des façons de réagir à cette problématique-là. Donc, non, c'est super important d'en parler, je pense.
Ben surtout, on a tellement été déçus par certains films, justement, sur le harcèlement, où on en a parlé, on en parle encore 5 ans plus tard, des films qu'on a vus, où il n'y avait pas de morale à la fin, où il n'y avait pas de solution, ça donnait l'impression que, OK, on ne pouvait pas s'en sortir, alors que là, on a essayé à la fois, Frida, elle y va par le dialogue, en tendant la main, à un moment, Raphaël, en essayant de comprendre, mais qu'est-ce qui lui arrive pour qu'il ait envie d'être méchant? On y va par la parole avec les parents. C'est important de faire la scène dans la cuisine où les parents lui disent, OK, c'est correct, apparemment, t'es pas traumatisé, mais tu nous en parles quand même. On voulait quand même que l'enfant se rende compte que si lui, il n'avait pas la force d'une Frida d'être capable d'assumer ça, il fallait absolument qu'il en parle à un adulte. Mais on voit aussi comment ses amis ont réagi dans la cour, comment Tonito, il réagit. Donc l'idée, c'était un peu de montrer qu'il y a beaucoup de façons d'en s'en sortir, mais avant tout, de commencer par le dialogue, de s'assurer que l'enfant qui lui-même intimide n'est pas lui-même en souffrance.
Manifestement, votre pari d'aborder des sujets difficiles et aussi d'aborder la vie de Frida Kahlo par son enfance a réussi, a été un pari gagnant puisque votre film est en sélection officielle dans plus d'une vingtaine de festivals, dont on le rappelle le festival en Australie, le Festival international du film pour enfants. Je vous ai déjà posé la question de la consécration en tant que réalisateur, mais est-ce que c'est une fierté pour vous, toutes ces nominations, ou est-ce que seule la récompense compte, sachant que vous avez déjà été récompensé dans certains de ces festivals?
Bon, je pense que juste être nominé, c'est intéressant, mais de toute façon, je pense que le plus important, c'est pas les prix, c'est d'avoir des enfants qui viennent nous voir et qui nous disent ah, moi maintenant, je m'identifie à Frida parce que moi aussi j'ai un handicap, tout ça m'a fait du bien. Je pense que c'est le plus important, c'est que si on est capable de faire connaître cette figure-là, de faire connaître la façon que tu peux vivre ta personne par des enfants qui apprennent à travers ça, c'est vraiment intéressant. Puis voir des enfants qui dessinent des dessins de Frida, des choses comme ça, je trouve que c'est encore plus valorisant que n'importe quel prix qu'on peut avoir.
Oui, non, c'est ça, c'est les nominations dans les festivals. Le simple fait qu'ils passent dans les festivals, même quand c'est des festivals où il n'y a pas de prix, de savoir que justement, des enfants australiens vont regarder, des gens en Afrique du Nord, au Maghreb, en Afrique noire, un peu partout. Donc, de savoir qu'ils vont être vus en espagnol, en mexicain, ça, c'est notre plaisir, là. Après, les prix, c'est toujours plaisant parce que, surtout quand c'est donné par des professionnels, c'est bien de savoir qu'ils ont compris ce message-là, puis que le film, ils l'ont apprécié. Mais c'est sûr que ça change. C'est vraiment l'accueil des enfants qui est vraiment important.
La reconnaissance des professionnels, mais aussi du public qui est quand même la première cible de votre travail. André, Karine, Hola Frida, ce n'est pas votre première collaboration. Vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, mais vous aviez déjà travaillé ensemble sur Dounia et la princesse d'Alep. Est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite?
Absolument.
Oui, on a
Dont vous
beaucoup,
pouvez nous
mais très
parler?
différents. Il y en a un qui nous tient à cœur, qui est un peu ce qu'on a fait pour Frida, sauf que cette fois, c'est pour une peintre qui n'a pas eu la chance d'être redécouverte comme Frida. Parce que Frida était redécouverte sur le tard. Il y a eu un 30 ans où elle était tombée dans l'oubli, puis c'est dans les années 70 qu'elle est revenue à la mode, puis que les féministes se sont réappropriées. Et là, on est tombé sur l'histoire d'une peintre algérienne qui a vécu un peu la même chose, Baïa, puis qui est partie à Paris, qui est devenue l'égérie, la muse de Picasso, de beaucoup, qui était une peintre incroyable, qui amenait des couleurs que personne ne connaissait, puis qui est repartie en Algérie, puis qui est retombée dans l'anonymat total, puis qui a été obligée de se marier avec quelqu'un beaucoup plus âgé, puis qui, pour tout le reste de sa vie, a peint en noir et blanc, alors qu'avant ça, elle avait des couleurs incroyables. Et c'est une artiste incroyable. Puis quand j'étais à Meknès, au Maroc, justement, pour présenter Hola Frida, je suis tombé sur une jeune auteure algérienne qui, elle, commençait à écrire la vie parce qu'elle a été élevée dans le village de cette peintre. Donc, l'un de nos projets, ça va être ce projet-là.
Karine Vézina, André Cadi, merci beaucoup pour votre temps.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/French.
Repos d'un éternel été. À l'ombre de cette colline, non. Chaque humeur et chaque jour.
Un trio, Joey Homicile, Kasi Lambiste et Lucien Gainsbourg, avec cette chanson sortie en 2025. Nous vous proposons à présent la partie 1 d'un épisode de notre podcast L'histoire cachée de l'Australie. Grégory Place et Romain Fati nous parlent d'esclavage et se demandent si les convicts étaient des esclaves comme les autres et évoquent également le blackbirding.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Comme d'habitude, nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'historien Romain Fati. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory.
Alors Romain, aujourd'hui on va se pencher sur un sujet difficile, celui de l'esclavage en Australie. Il n'y a pas d'actualité particulière qui m'a attiré vers ce sujet, mais je me suis souvenu qu'en 2020, en marge des manifestations qu'il y avait un peu partout dans le monde suite à l'assassinat de George Floyd, ce noir américain qui a été tué par un policier aux États-Unis, il y avait eu quelques remous également en Australie venant des communautés aborigènes notamment, et l'ancien Premier ministre Scott Morrison avait déclaré à ce moment-là qu'il n'y avait pas eu d'esclavage en Australie et qu'en gros, donc, il n'y avait aucune raison que les luttes en cours aux États-Unis soient importées ici. Alors, l'une des questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir si à ce moment-là, Scott Morrison disait vrai ou pas. Alors, l'Australie, telle qu'on l'a fondée, telle qu'elle a été fondée il y a un peu plus de 200 ans maintenant, c'était une colonie pénitentiaire. Donc, les premières personnes qui sont arrivées ici n'étaient pas volontaires, elles ont été envoyées ici. On parle évidemment de ce qu'on appelle les convicts, donc des repris de justice envoyés par le pouvoir anglais pour peupler cette nouvelle terre. Ces convicts, donc condamnés, ils arrivent ici, ils doivent travailler. Est-ce qu'on peut considérer que ces personnes ont été réduites en esclavage ?
Je ne pense pas qu'on puisse considérer que les 165 000 bagnards transportés de Grande-Bretagne vers l'Australie entre 1788 et 1868 comme des esclaves. Et je vais vous expliquer pourquoi, avec quelques bémols bien sûr. Mais je pense que je vais prendre un peu plus de temps pour répondre à cette question, parce que d'abord, si vous me permettez, il faudrait qu'on définisse la notion d'esclavage. À Nantes, vous avez un mémorial de l'abolition de l'esclavage, qui est un site internet qui est très bien fait, avec pas mal de ressources bien construites, et qui synthétise un certain nombre de conventions internationales. Alors, l'esclavage, quand on le définit de façon très simple, c'est un système socio-économique qui repose sur l'exploitation d'êtres humains, qui ne fonctionne que sous la contrainte, et généralement par la violence. L'esclave, c'est donc une personne qui n'est pas de condition libre. Cette personne, cet esclave, appartient à un propriétaire qui exerce sur lui un pouvoir plus ou moins absolu. Donc l'esclave peut être considéré comme un bien mobilier, l'esclave peut être vendu, il peut être échangé, et il est surtout contraint d'effectuer tous les travaux que son propriétaire exige de lui. Alors l'esclavage, ça peut prendre des formes variées, la servitude pour dette, le servage, le mariage forcé moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, la transmission d'une épouse lors d'un décès de mari par exemple, l'exploitation des mineurs contre rémunération de ses parents. Mais en fait, nous souvent, quand on pense à l'esclavage, on réduit ça généralement à la traite. C'est-à-dire que la traite des esclaves, c'est l'acte qui consiste à mettre des humains en esclavage, à les vendre et à les transporter contre leur gré. Alors vous allez me dire, mais Romain, les bagnards déportés en Australie par la Grande-Bretagne, ils n'étaient pas nécessairement très contents de l'être. Alors, effectivement, mais je vous rappelle que ces bagnards, ils sont pas venus, ils n'ont pas été vendus déjà, ils n'ont pas été déportés en tant qu'esclaves à proprement parler. Et ce qui leur est choix, en fait, c'est un service assigné. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ces bagnards qui sont déportés purgent une peine de prison. Ils ont été condamnés par un tribunal en Grande-Bretagne. Alors vous allez me dire, oui, c'est un système de justice extrêmement sévère. Si vous voulez du pain, eh bien, tout vol, de toute façon, peut être puni par la mort. Et donc, il y a un choix qui se pose, c'est-à-dire la mort par pendaison ou la déportation dans les colonies de l'Empire britannique. Avant la fondation, enfin la colonisation de l'Australie commence en 1788, les Britanniques déportent leur surplus de bagnards dans les 13 colonies, c'est-à-dire ce qui deviendra plus tard les États-Unis d'Amérique. Ces derniers faisant leur révolution, les Britanniques sont dépourvus d'endroits où ils peuvent exporter leurs bagnards et régler leurs problèmes de surcharge pénitentiaire. Et donc, se porte vers l'Australie. Alors, ça fait deux coups en un, si vous voulez, puisque vous déportez vos prisonniers, et puis par ailleurs, vous continuez à peupler votre empire. Les convicts, les bagnards, quand ils arrivent sur place, effectivement, ils ont un service assigné de travail forcé. Mais c'est une peine qui est purgée. Une fois que cette peine est purgée, ils peuvent, et généralement, ils retrouvent leur liberté. Alors, effectivement, ça peut être 1, 2, 3, 6, 10 ans d'exploitation, de travail forcé, mais vous restez sujet britannique. Vous êtes quand même protégé par le droit. La personne chez qui vous êtes placé n'a pas absolument tous les droits sur vous. Alors, dans la pratique, effectivement, il y a énormément d'abus. Vous avez effectivement des pratiques qu'on pourrait qualifier d'esclavage. Mais de manière générale, c'est pas un terme qui est nécessairement approprié pour parler des bagnards.
Alors, je vous titille juste un peu là-dessus parce que en reprenant les, vous avez donné la définition de l'esclavage et les différentes formes qu'il peut prendre. Et ce que vous décrivez, enfin la situation des convicts, les conditions dans lesquelles ils arrivent en Australie. Et rappelons que à la fin du XVIIIe siècle, une fois qu'on est envoyé là-bas, même si théoriquement on a une fois sa peine purgée la possibilité de rentrer en Angleterre, dans les faits c'est quand même quasiment impossible étant donné la distance et le coût du trajet. Donc c'est un exil. Et ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'en fait, enfin cette situation des convicts, ça ressemble à la forme la plus soft, si j'ose dire, de l'esclavage, c'est-à-dire la servitude pour dette envers la société en l'occurrence.
Oui. Mais là effectivement, en fait, vous allez me piéger sur des questions en fait qui sont assez légalistes, c'est-à-dire que tout esclavage est esclavage. Est-ce que le fait qu'il soit rendu légal et qu'il soit sanctionné par l'État le rend normal? Non, la réponse est non, probablement pas, effectivement. Mais la réalité, c'est que vous avez des 165 000 bagnards, la majorité d'entre eux ont pu échapper à la peine de mort. Alors, est-ce que c'est une vie de se retrouver à 15 000 km à faire des travaux agricoles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une fois ces travaux et cette peine purgée, c'est une peine de prison, c'est le bagne, il y avait ça en France hein, également, où vous travaillez, il y avait des travaux forcés imposés par l'État. Là, en l'occurrence, vous êtes placé chez des propriétaires. Et une fois votre peine purgée, vous pouvez vous-même demander à recevoir des bagnards. Hein. C'est ça qui est assez intéressant dans le cas de l'Australie, c'est que vous avez des situations où vous avez des condamnés hein, de droit commun qui sont envoyés à l'autre bout du monde, qui purgent leur peine et qui eux-mêmes après deviennent agriculteurs, fermiers, exploitants et qui font appel à d'autres bagnards qui leur sont proposés par les colonies de l'époque, en l'occurrence à l'époque surtout la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria et la Tasmanie. Donc on si vous voulez, comment dire en anglais, the jury is still out. Hein, la qualification d'esclavage, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sous le même chapeau, mais effectivement, c'était très très dur. Et à ce propos, si parmi nos auditeurs, certains cherchent une lecture d'été en anglais sur l'histoire australienne, il y a le livre de Kate Greenville qui s'appelle The Secret River. Je pense que j'en ai déjà parlé, qui en fait, on suit un roman, alors c'est romancé évidemment, de convicts, de bagnards qui arrivent en Australie, à Sydney Cove, et qui ont tout à faire. Et alors se pose la question de qui est libre, qui ne l'est pas, et ces questions de travaux forcés et les rencontres avec les aborigènes. Donc The Secret River de Kate Greenville, c'est un livre qui se lit assez facilement.
Il me semble qu'on l'avait évoqué quand on a fait plusieurs épisodes autour de l'histoire de l'immigration en Australie. Je n'ai pas lu le livre, mais il y a un film en deux parties qui en a été inspiré et qui est très bien aussi, mais le livre est sans doute encore mieux. Alors, bon, la question des convicts, on a à peu près répondu. Je voudrais maintenant qu'on aborde une autre forme de travail forcé qui a eu lieu en Australie. On a d'ailleurs consacré un épisode entier à cette pratique qui s'appelle le blackbirding. Pour le coup, c'est sans doute ce qui ressemble le plus à l'esclavage plantationnaire, on va dire, tel qu'il a été pratiqué aux États-Unis et ailleurs aux Amériques au cours des siècles précédents. Alors, on a déjà parlé de ça pendant donc un épisode tout entier. En quelques mots, Romain, c'est quoi le blackbirding exactement ?
Alors oui, là, vous avez raison de le rappeler, le blackbirding se rapproche beaucoup plus de l'esclavage tel qu'on le connaît. En fait, il y a un contexte à ça, c'est-à-dire que l'abolition de la traite dans l'Empire britannique, elle a lieu en 1807. Ça n'abolit pas encore l'esclavage, ça abolit la traite. L'esclavage lui-même est banni dans l'Empire britannique en 1833. Et donc, dans les années 1830, se pose la question de comment on va exploiter, comment on va faire travailler, puisque en grande partie, les travaux agricoles reposent sur des travaux forcés. Donc, avant le blackbirding, il y a ce qu'on appelle les coolies en Australie, c'est-à-dire des travailleurs que l'on va chercher en Inde et en Chine. Et théoriquement, c'est un contrat. C'est-à-dire qu'on leur propose un contrat en leur disant, voilà, vous serez nourris, logés, blanchis et rémunérés. Alors, pas grand-chose, et souvent en pratique, rien du tout. Donc, comme l'esclavage, c'est-à-dire je vais saisir des êtres humains, je les mets dans un bateau et je les fais travailler pour moi, comme ça c'est interdit et que vous pouvez aller en prison, vous passez dans le cadre légal en disant « mais non, c'est un contrat ». Et ce contrat ne vaut rien en réalité, mais il permet de passer entre les mailles du filet. Et donc, vous en avez quelques milliers de coolies, dizaines de milliers au fur et à mesure des décennies, mais c'est pas suffisant pour l'industrie de la canne à sucre, par exemple, et pour les autres travaux agricoles. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les années 1840, 1850, 1860, etc., vous avez la pratique du blackbirding. Et c'est un mot qui est extrêmement négatif et raciste, en réalité. Et la pratique consiste en ceci, que des expéditions sont menées depuis l'Australie pour aller vers les îles des Pacifiques et surtout la Mélanésie, où vous avez des hommes blancs avec leurs bateaux qui arrivent et qui rassemblent un village, ou rassemblent des hommes, ou rassemblent toute manœuvre dont ils pourraient avoir besoin, et proposent encore une fois des sortes de contrats qui ne sont généralement pas exécutés, du moins pour la partie rémunération. En revanche, ils le sont pour la partie exploitation, et qui déportent des milliers, hein, à peu près 62 000 Mélanésiens, sont transportés en Australie pour faire avancer l'agriculture. Et là, effectivement, ce sont des pratiques d'esclavage moderne. Alors, certains sont renvoyés après, au bout de plusieurs années, voire plusieurs décennies. Ça aussi trait à la politique de l'Australie blanche. Mais là, en réalité, oui, vous êtes exploité physiquement, vous pouvez être maltraité, vous n'êtes généralement pas rémunéré, et la nourriture, c'est loin d'être un service 5 étoiles. Donc ça, on se rapproche beaucoup plus de l'esclavage tel qu'on le conçoit.
C'était Louane et sa chanson La pluie. C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. Et je vous souhaite d'ici là de passer un excellent samedi après-midi. Au revoir, messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.